Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui pèse trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que vous allez écouter. Parce qu'on questionne toutes les deux l'impact de la maternité sur la carrière des femmes, avec Marie, créatrice du podcast Maman Boss, on a voulu aligner nos voix dans un épisode commun, La Reprise et Maman Boss. Cet épisode est diffusé en 2 parties. Et c'est le 2e volet que je vous dévoile ici.
Et la première partie du témoignage est à retrouver chez Maman Boss.
C'est donc avec un grand plaisir, et beaucoup de questions, qu'on a tendu nos 2 micros à Elia, alias Quotidienne sur Instagram, pour qu'elle nous raconte son parcours, de ses débuts en tant qu'entrepreneur, au métier de prof.
Dans le 1er volet, Elia est revenue sur ses premières années d'enseignement, rythmées par plusieurs événements marquants. Séparation, déménagement, maternité solo. Des premières années sous tension.
Dans ce 2e volet, on aborde sa 2e maternité. Et entre sa 1re reprise en tant que mère célibataire et sa 2e reprise en tant que conjointe et mère comblée de 2 enfants, celle qui soulève le plus de questionnements n'est pas forcément celle que l'on croit.
Elia nous explique ce qui diffère entre ces 2 reprises et comment sa relation au travail a évolué depuis. Elle dénonce l'injonction à la productivité permanente qui pèse sur les mères comme sur les profs et propose une lecture féministe réjouissante du congé parental.
Bonne écoute.
Justement, ta seconde, comment s'est passée ta maternité ?
Alors, super. Enfin, en termes de grossesse, c'était très très bien. Ça s'est super bien passé. L'accouchement aussi. Enfin, même tout, en fait, s'est bien passé. Mais c'est vrai que tout ce que je n'avais pas vécu pour la première, j'ai tout pris. J'ai clairement tout pris dans la face. Hein. en termes de. Ouais, de déstabilisation, de remise en question, d'interrogation, de questionnement, du travail, pas du travail. Ça a été... Je sais pas si c'était décuplé, parce que du coup, j'en savais strictement rien par rapport à ma première. Mais c'est quelque chose qui est arrivé à ce moment-là, que j'avais jamais connu et qui m'a beaucoup questionnée sur comment ça se fait que je l'avais pas vécu au début et que j'ai vécu après, avec des difficultés aussi à admettre que, ben, en fait... Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout était super bien quand j'étais mère célibataire avec ma fille, mais que en fait, peut-être que c'était pas si bien que ça, et peut-être que plus d'une fois, en fait, voilà, j'étais en pilote automatique parce que c'était une question de survie et que c'était pas aussi facile et aussi simple que ce que j'en ai l'impression aujourd'hui, quoi.
La mémoire a fait un tri, peut-être.
La mémoire ou juste le fonctionnement, je me dis en fait, quand on est en mode survie, c'est vrai que le cerveau, peut-être qu'il s'encombre pas de plein de questions. Peut-être qu'il dit, ouais, t'as pas le temps là maintenant tout de suite, tu te concentreras sur autre chose et tu vivras ça à un autre moment de ta vie. Et peut-être que le fait de retomber enceinte et de revivre une grossesse et qu'il soit différente sur plein de points, mais peut-être que mon cerveau il s'est dit, tiens, c'est le moment, c'est l'heure, coucou.
Et donc finalement, ce qui aurait pu paraître plus serein l'a moins été.
Oui, ouais. Beaucoup de questions sur, je sais pas, par exemple, sur le travail. Je me dis, mais pourquoi maintenant je me pose des questions sur le travail alors qu'avant je m'en étais jamais posée. Avec pas forcément l'envie, mais en même temps être hyper tiraillée parce que mais aussi j'en avais envie, mais pas comme ci, pas comme ça, les horaires qui me dérangeaient ou le temps de travail, voilà, moi je sais que là en ce moment le travail à la maison, c'est un truc, ça me sort par les yeux, je me sens prisonnière du travail parce que je me dis ben voilà, en fait une fois que je quitte mon travail, je dois encore travailler et je trouve ça pas juste parce que je me dis mais en fait mes journées c'est pas, entre guillemets, 8h, 16h, comme on essaye de me faire croire. je commence ma journée, il est 7h du matin, et je la finis, ben, en fait, il est 21h, quoi. Parce qu'il faut corriger les copies, parce qu'il faut préparer les cours, parce qu'il faut répondre aux parents, parce qu'il faut rentrer les notes, parce qu'on échange entre collègues, parce qu'il y a des projets qui rentrent, enfin, pour plein de raisons, quoi.
Puis je me pose beaucoup plus de questions par rapport au travail. Qu'est-ce que tu te poses comme question ?
Bah, par exemple, je ne m'étais posé aucune question sur le fait de reprendre avec ma fille à la date prévue. Et là, quand il a fallu reprendre, je sentais que en fait, je voulais un congé parental et que je ne voulais pas la laisser parce que j'aurais dû la laisser à la crèche à peu près à 2 mois et demi. Bon, déjà, on n'avait pas de mode de garde parce que dans la ville où je suis, un mode de garde, c'est un truc, je ne sais pas, porté disparu. Je ne sais pas comment font les autres parents, mais clairement ici, c'est... je pense qu'il y a des coups bas pour avoir une assistante maternelle ou une place en crèche, hein, parce que c'est quand même assez hard. Et en fait, on n'avait pas de mode de garde. Et moi, je me disais, mais elle a 2 mois et demi, elle est trop petite. Et c'était impossible pour moi de me dire que j'allais reprendre le travail. Donc, j'ai pris un congé parental de 3 mois. Et en même temps, je culpabilisais parce que je refaisais mes comptes. Et je me disais, mais... est-ce que c'est possible de faire ça ? Est-ce que financièrement, tu ne vas pas te mettre dans la panade ? Parce qu'il faut quand même assurer derrière financièrement, je ne sais pas, moi, payer les couches, genre, le loyer à manger, c'est un autre enfant. Et ça a été hyper long comme prise de décision. Et au moment où je l'ai pris, je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Hein, mais il a fallu vraiment beaucoup d'encouragement de la part de mon conjoint, de la part de ma mère, la garantie, je sais pas moi, de mon entourage que tout allait bien se passer pour que je sois plus tranquille. Et encore, j'ai été davantage tranquille une fois qu'on était en vacances scolaires parce que le congé parental c'était fini, c'était les vacances, c'était autre chose. Et que j'avais pas l'impression en plus de que la société nous fait sentir là pour le coup vraiment de tu profites d'un système quoi. T'es chez toi alors que tu devrais être au travail comme toutes les autres personnes.
Enfin, tu profites d'un système à hauteur de 400 euros par mois.
Ah, ben oui, mais ça, c'est comme le chômage. C'est, tu profites d'un système, mais on ne te dit pas trop, en fait, que tu as droit et que ce n'est pas non plus la panacée. Mais ça a été hyper compliqué. Et ouais, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me dire ça. Et puis, c'était compliqué aussi parce que j'avais mes valeurs féministes et que pendant très longtemps, être femme au foyer, c'était être pas féministe. En tout cas, dans mon esprit, on va dire simpliste à ce moment-là. Et du coup, ça aussi, ça a été nul en me disant, mais en fait, si tu choisis là de ne pas forcément répondre aux injonctions de retour au travail, ça ne veut pas dire que tu deviens une fidèle représentante du patriarcat. Ça veut juste dire que tu fais des choix pour ta vie à toi et c'est quand même plutôt pas mal.
C'est comme ça, moi, que je t'ai connue. Je t'ai découverte sur Instagram au travers de ton post où, justement, tu as argumenté sur le fait que prendre un congé parental pouvait être un acte féministe. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ?
Ben, en fait, on a cette injonction à faire des enfants, déjà, et puis à très très vite retourner travailler avec un corps de rêve, accessoirement. Donc, il faut retourner au travail, être productrice et productive, le tout à la fois en même temps, et sur une temporalité qu'on n'a pas décidée. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui décide, c'est la société qui décide. À quel moment tu dois t'arrêter parce que ils estiment qu'à telle date effectivement tu n'es plus productive donc tu vas couver ton enfant puis à telle date tu dois redevenir productive et revenir travailler et comme en plus il y a cette construction de l'image enfin de la mère au foyer qui fait rien et qui traîne et qui vit grâce à l'argent de son conjoint qu'il ramène lui parce que c'est l'homme de la famille donc c'est lui qui amène les sous donc elle n'est pas indépendante plutôt etc. Enfin, c'est deux images qui vraiment étant opposé, donc je me disais, mais en fait, d'un côté, je vais travailler, mais c'est pas moi qui décide d'aller travailler à ce moment-là. Mais si je fais pas, on va me dire que je vis au crochet de mon conjoint ou quoi. Et, mais d'un autre côté, j'ai pas du tout là la force, la capacité mentale et physique à retourner bosser, etc. Et en fait, le droit de ne rien faire et le droit à la convalescence et le droit à vivre au rythme de son corps aussi, parce qu'après un accouchement, c'est vraiment vivre au rythme de son corps, parce qu'on n'a pas toutes la même. Capacité après après un accouchement, on n'est pas du tout toutes égales. Il n'y a pas une seule expérience qui est la même. Il y a des femmes qui seront hyper contentes d'aller reprendre au bout des 2 mois et demi. Il y en a qui en seront incapables. Et les deux sont valables, les deux sont normales. Et au moment où on se dit que nous, on n'en est pas capable, choisir le fait de ne pas retourner travailler, c'est un acte féministe. C'est un acte qui dit, en fait, je compte. Mon corps compte, ma santé mentale compte, ma santé tout court compte. Pour moi, c'était féministe à ce moment-là de choisir ça.
Est-ce que le fait, du coup, de vivre ton congé parental a répondu à toutes tes attentes.
C'est vrai que j'en ai bien profité, j'étais bien contente parce que du coup j'ai pu aussi beaucoup me consacrer à mes deux filles et ça me tenait beaucoup à cœur d'être présente pour les deux. Surtout qu'elles ont, à cet âge-là, elles ont vraiment un rythme asynchrone. Hein. C'est-à-dire que pour se reposer, c'est pas trop possible, mais au moins je pouvais être présente pour les deux. Et je trouvais ça très important pour justement faciliter les liens entre les deux sœurs et pour que ma grande passe de enfant unique finalement à grande sœur. Je me suis vraiment dit, j'ai fait le bon choix, quoi.
Et en parallèle, tu t'es quand même lancée dans deux projets, le Mother Book Club avec Alice. Et le cercle des réveillés, non ?
Oui, bah oui, bah là c'est tout moi, c'est-à-dire que quand je pourrais me reposer, je ne le fais pas. Alors le Mother Book Club avec Alice, je me rappellerai, mais toujours un matin, on était toutes les deux avec nos bébés qui se réveillaient à pas d'heure, donc on s'écrivait, on échangeait à ce moment-là, et on se dit il faudrait trop faire un club de lecture et tout, et on se dit mais il faudrait trop qu'on fasse ça, et c'est né comme ça quoi. Donc, il faut faire dormir les mères, sinon elles ont des idées en plein milieu de la nuit. Tu vois, un peu comme toi, Tinuane, sous ta douche pour le podcast, tu vois, c'est un peu la même chose. Quoi. Tu te réveilles et tu as une idée en tête et tu dis, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, voilà. Et le cercle des réveillés, c'était un projet un peu avant. Alors, j'étais arrêtée donc, pour ma grossesse parce que c'était à nouveau... Covid++, semi-distanciel, etc. Donc, mon médecin a dit on ne prend aucun risque et on ne va pas commencer à se surcharger au niveau des protocoles et tout ça. Vous restez chez vous et puis voilà. Donc, je suis restée chez moi et évidemment, comme d'habitude, j'ai culpabilisé parce que j'étais arrêtée, parce que je ne travaillais pas, etc., etc. Et avec des copines, c'est à ce moment-là où est né le projet et je me suis dit mais tiens, si je mettais mon temps libre pour faire quelque chose d'intéressant. Et donc c'est là où on a commencé à réfléchir au cercle des réveillés.
Est-ce que tu peux juste expliquer en deux secondes ce que c'est ?
Alors, c'est un projet dans lequel, en fait, c'est un abonnement trimestriel à une box livre, un coffret donc, avec un livre. Et le livre, on a pour objectif qu'il présente une littérature jeunesse diversifiée. Donc, c'est pour les enfants, on va dire, de 3 à 7 ans, à partir de l'école, quand justement, ils sont confrontés à autre chose à ce qu'ils voient dans leur foyer, dans leur maison. Donc, ça va être les familles monoparentales, les familles homoparentales, la diversité aussi ben, en termes de, voilà, des enfants qui sont grands, petits, blonds, noirs, asiatiques, asiatiqueté précisément. Enfin, voilà. Et ça, moi, ça me semblait normal parce que ma fille, elle rentrait de l'école, elle avait toujours plein de questions et de choses à découvrir, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est normal, ils ont un monde... Ils ont accès à un monde qui n'est pas le nôtre, qu'on ne connaît pas. On n'a pas toujours la réponse à leurs questions. Il y a cette idée que le livre, il transmet quand même un rapport au monde. Et du coup, bah, pour avoir un rapport au monde plus ouvert et moins stéréotypé et moins fort clos, bah, je me suis dit, mais il faut travailler sur la représentation, la diversité à travers la littérature jeunesse. Et c'est comme ça qu'est né le projet.
Et finalement, par rapport à ce que tu nous as raconté au tout début de ta première expérience pro, tu as toujours cette fibre un peu entrepreneuriale en toi.
Ouais, ben oui. Du coup, c'est vrai que c'était utile. Je me suis dit, mais tiens, mais tout a un sens finalement. Donc, j'aime bien les boucles qui sont bouclées. Donc, c'est bon, c'est ce que j'avais fait au début. Hop, j'ai réutilisé, ça va, c'est validé. Alors, à la longue, quand je regarde le projet, quand je regarde l'énergie qu'on y met et comment ça se passe, non, l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment pour moi.
Donc, tu l'as complètement écarté pour ta reprise, par rapport à tes questions liées au travail.
Oui, parce que pour moi, c'est pas du travail, parce que bon, bah, le livre, ça reste quand même du plaisir et c'est une vraie source de plaisir. On avait lancé le projet plus en disant, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas de pression spécifique. J'adore échanger sur ce projet, on y passe du temps. Voilà, j'ai travaillé sur le site, j'ai travaillé sur les statuts, sur tout ce qui est sur juridique. Dès que je me plonge dans la compta, je trouve ça génial. j'ai dit cette phrase. mais il n'empêche que ça peut pas être que ça mon travail. En fait. Je crois que j'aime pas entreprendre, c'est trop de pression.
Ah oui. Et du coup, tu étais contente de reprendre ton boulot de prof à l'issue de ton congé parental ?
Ouais. J'étais contente de retrouver mes élèves. Et c'est drôle parce que avant, je ne supportais plus mes sixièmes à ce niveau, ça m'énervait. Et maintenant, c'est celui que je préfère parce que les élèves, ils sont plus petits et il y a plus ce côté un peu maternant qui avant m'agaçait. Et finalement, je me dis, ouais, non, c'est reposant quand même. C'est des choses que je sais faire qui ne me demandent pas trop de capacité de prise de recul, de position, etc. Je sais rappeler facilement à un enfant qu'il faut qu'il fasse son cartable le soir.
Oui, c'est dans la lignée de ce que tu fais au quotidien.
C'est plus facile de faire ça que de parler à un troisième ou à un second, parce que dire à un second qu'il faut qu'il fasse son cartable avant cours, je me dis non, c'est normal, il est grand.
Et comment s'est passée ta reprise alors, celle-ci, qui quand même, dans des conditions complètement différentes, c'est-à-dire emploi stable, couple, quoi, tout simplement, famille stable, logement stable, région stable, stabilité plus, quoi.
Ça s'est très bien passé, bah, déjà parce que je m'entends très très bien avec mes collègues, on a une super équipe, donc j'étais enchantée de les retrouver. Enfin voilà, en termes de projet, tout s'est super bien passé. Par contre, combiner vie pro et vie perso, là ça a été compliqué, déjà parce que ma fille faisait pas ses nuits. Je sais même pas si je peux dire qu'elle fait ses nuits à l'heure actuelle, mais oui, elle ne dormait toujours pas la nuit, donc j'ai repris, elle avait 8 mois. Donc ça faisait 8 mois que j'avais pas fait une nuit complète. La charge de travail, j'avais oublié ce que c'était en ayant fait une pause aussi longue. Et même si j'avais bossé pendant les vacances d'été, si j'avais préparé des cours, etc., j'étais pas prête à cette charge-là de travail que j'avais complètement oubliée, en fait.
Ça t'a paru plus dur qu'au moment où tu reprenais la première fois en moment solo?
Oui. Les conditions se sont totalement différentes. Je pense que la crise sanitaire qu'on a connue a complètement changé aussi les rapports professeurs-enseignants, que les parents nous demandent des choses qu'on n'avait pas à faire avant. Il y a une surcharge du travail administratif à ce titre-là. Et puis aussi le fait qu'il y ait la crise sanitaire, en fait, on a des enfants qui sont en isolement, par exemple. Donc, ils ne viennent pas en cours pendant 1 semaine, 10 jours. Donc, il faut qu'on fournisse le travail à ces enfants-là. Sauf qu'il ne faut pas qu'on arrête les cours pour les autres. Donc, on fait nos cours et puis après, il faut qu'on prenne le temps de renvoyer le travail aux autres. Donc, ça nous prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Et ça, ça n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, c'est vrai que cette charge-là supplémentaire de travail, je ne l'avais pas au moment de ma première fille.
Ah oui.
Et c'est quelque chose qui est complètement sous-estimé. Et je le vois, que ce soit moi ou mes collègues, de toute façon, de façon générale, il y a une fatigue qui est immense parce que en fait on me demande de faire deux choses qui sont pas complémentaires du tout, quoi. C'est-à-dire faire du distanciel presque plus du présentiel.
Oui, ça fait exploser les temps passés, en fait.
Ouais. Puis c'est tout dans l'agressivité, du coup si on n'envoie pas si on ne répond pas aux mails ou si on n'a pas déposé du travail ou si on n'a pas rempli parfaitement le cahier texte numérique avec ce qu'on a fait dans la séance, de suite on a des mails agressifs des parents parce que leurs enfants ne peuvent pas suivre, parce qu'ils sont anxieux, etc. Alors que, ben, en fait, juste, on a une journée de travail et qu'effectivement, c'est possible que dans l'heure qui suit, on ne peut pas mettre tout en ligne parce qu'on a aussi, envie d'aller aux toilettes ou de boire un café, voire manger les jours, les jours de chance. Et ça, c'est, enfin, dans la relation parent-professeur, y a quelque chose qui s'est cassé, quoi. Il n'y a plus d'indulgence, ouais.
Du fait de la distanciation des relations, peut-être aussi.
Oui, et puis parce qu'on leur a fait croire que l'école, c'était un polycopier, que les cours, c'était des polycopiers. Et que s'ils n'ont pas de polycopier, c'est qu'il n'y a pas de cours, ce qui est faux. Donc tout ce qui se passe en classe, complètement passé à l'as, ça disparaît. Et les parents, ils veulent du concret. Donc si leur enfant, il n'a pas un exercice à faire, par exemple, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Et donc le parent exige quelque chose. Alors qu'on lui dit, je ne sais pas, moi... Le jour où je fais un débat en classe, on fait un débat en classe, donc ça se passe en classe, et oui, votre enfant, il ne peut pas le faire, parce qu'il n'est pas avec lui, et il ne peut pas échanger. Et en soi, s'il avait une grippe, ça ne lui aurait pas posé de problème. Mais parce qu'il est contraint de rester à la maison, parce qu'il est qu'à contact, par exemple, alors là, de suite, pour le parent, c'est grave, et on le prive de quelque chose.
Oui, ça change vachement la nature et de vos relations, et du coup, impératifs, des responsabilités qui incombent au prof, en fait, une sorte de logique de productivité qui est venue s'intégrer dans votre vie.
C'est ça. Et puis voilà, vraiment cette idée que le support fait le cours, alors que le cours, c'est les interactions, c'est les échanges avec les élèves, c'est les questions qui peuvent se poser. Enfin, on a fait ce qu'on a pu pendant les périodes de confinement, notamment les premières périodes, où effectivement on a testé des choses, on a donné des supports, etc., mais parce qu'on était privé de ce temps de classe. et ce temps d'échange et ce temps de construction commune. Et en fait, pour beaucoup, c'est resté, et c'est cette idée que pour travailler, il faut produire, il faut écrire, il faut un support, alors qu'en fait, on peut travailler tout à fait juste en échangeant, en discutant, en reprenant. Genre, moi, parfois, je fais des dictées, je fais comment ? Je l'enregistre et je leur envoie un enregistrement. C'est stupide, bah oui, effectivement, tel jour, il n'y a rien, parce que tel jour, on a fait une dictée. Bah, ok, pas grave, pour l'élève, en l'occurrence, il rattrapera un autre moment, et puis... Ça fait partie aussi de la vie scolaire et de la vie de fois aussi où les parents, ils n'ont pas à tout savoir heure par heure à quel moment leur enfant il a pris un stylo, à quel moment il l'a posé, et puis qu'est-ce qu'il a dit, c'était quoi la nature de l'échange. Non, en fait, il y a des choses aussi où leurs enfants ont le droit d'avoir une vie qui leur appartient, quoi.
Et du coup, tu te sens comment aujourd'hui dans ton métier de prof par rapport à ces conditions-là qui se sont durcies et aussi par rapport à la matrescence, puisque tu disais que cette fois-ci, pour cette deuxième maternité, tu te posais plein de questions.
J'ai beaucoup de colère parce qu'on pourrait vraiment travailler différemment avec l'administration, avec les parents, avec tout ça. Je pense qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus respectueuses de chacun. Donc ça met beaucoup en colère. Après, j'ai toujours beaucoup d'amour pour ce métier. Je suis très contente de le faire parce que j'adore être avec les élèves, des échanges, être en classe. Je trouve ça tellement nourrissant et tellement... Il y a plein de choses qui se passent. Les élèves, ils les aiment, ils s'intéressent, ils participent dans les cours, ils sont pleins de vie, ils sont hyper pertinents. Voilà, moi, je suis prof de français, je leur fais lire des textes, ce qu'ils en ressortent, ce qu'ils disent, ce qu'ils s'échangent autour. Enfin, je trouve ça fou et incroyable. Donc, j'ai toujours cet amour-là de ce que je fais. Mais c'est vrai que je suis très en colère par tout ce qui pollue autour et toutes ces... Voilà, toutes ces relations qui sont abîmées parce qu'il y a une mauvaise image. Parce qu'il y a aussi un souci de communication sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, et sur ce que c'est que le métier de prof. Mais après, oui, plusieurs fois, je me suis dit, mais je peux pas rester prof. C'est pas possible. J'ai pas le temps dans ma vie pour rester prof. Parce que dans ma vie, j'ai aussi envie de lire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'être avec mes enfants, j'ai envie d'avoir du repos aussi. Parce que, en fait... nos élèves, on les transporte partout avec nous, et puis que si le vendredi soir on a un élève qui nous dit que ça va pas du tout et que je sais pas, il en a trop marre de se fâcher avec ses parents parce que c'est l'adolescence et que les devoirs c'est compliqué, que le lundi toi tu lui as foutu une interro et que tu sais que ça va pas bien se passer les révisions, tu dis putain merde, peut-être que j'aurais dû la faire à un autre moment, ou t'as jamais de temps de repos à 100% si ce n'est pendant les vacances entre guillemets, donc ça aussi c'est très lourd en fait. Et je me dis, mais en fait, plus j'ai d'enfants, plus j'ai pas spécialement envie de passer mon temps à être inquiète pour d'autres enfants encore. Parce que sinon, dans ce cas, moi, j'existe plus en tant que personne.
Est-ce que ça veut dire que pour toi, le métier de prof est finalement pas si compatible avec une vie de mère de famille ?
Ça, c'est compatible, mais il faut qu'on ait moins d'élèves. Parce que, moi, j'ai des classes, il y a des classes qui sont 38, quoi. Et 38, une classe, ça fait pas un temps plein, donc 38 plus 38 plus 38 plus 38. En fait, même pour les élèves, il y a cette frustration aussi qu'on porte avec nous, qu'on peut pas voir tous nos élèves, on peut pas rentrer en contact avec tous nos élèves parce qu'ils sont trop nombreux. On aimerait le faire, vraiment, mais on peut pas. Physiquement, ça nous demande trop, et effectivement, je pense que c'est incompatible avec une vie de famille ou même avec une vie de couple, parce que dans ce cas, si on veut voir chaque élève, ça veut dire qu'on ne fait que ça, littéralement. Donc, c'est même pas compatible avec une vie à soi, tout simplement. On n'a pas beaucoup de temps libre. Effectivement, on regarde nos emplois du temps, on se dit c'est que ça, mais en fait, il y a tout l'à côté. Alors, bien sûr, on va me dire qu'il y a des tirs au flanc, qu'il y en a qui font que ça. Bah ouais, il y en a qui font que ça, mais en fait, comme dans toutes les professions, et il y a des tirs au flanc partout, et voilà. Et prof, ça fait partie des métiers, comme beaucoup de métiers du Caire, où en fait... Le que ça, tu le traînes tout le temps avec toi. Et quand on lit, je sais pas, moi c'est sur l'inceste, ça m'a retourné quand on dit je sais plus combien.
1/5, non ?
1/5, je crois, voilà, d'élèves d'une classe de primaire connaît des violences sexuelles. Et en fait, le jour où tu lis ça, t'arrives dans ta classe et puis tu vois que t'as au moins 5 fois 5 élèves et tu te dis putain, ça veut dire qu'il y en a 5 là dans ma classe, statistiquement, potentiellement. Ok. Et c'est horrible. Voilà, le vivre au quotidien, c'est pas aussi facile que ça. Et comme notre travail s'alourdit en plus des cours, bah, c'est hyper dur parce que psychologiquement, bah, en fait, on a beau dire, mais on les aime, nos élèves. On a envie qu'ils aillent bien, on a envie qu'ils réussissent, dans le sens qu'on a envie qu'ils soient heureux, juste.
Et du coup, est-ce que tu... Comment tu te projettes ?
Vieille. Moi, mon rêve, c'est d'être vieille avec beaucoup de cheveux blancs et une tresse et d'être contente. Et entre maintenant et ce niveau-là de ma vie, je sais pas.
Dernièrement, tu demandais sur Instagram, en story, des informations concernant un bilan de compétences. C'est quelque chose auquel tu penses ?
Ouais, alors, j'ai pas beaucoup confiance en moi et j'ai toujours l'impression que je sais pas faire grand-chose à part enseigner. Et je me dis, oui, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire aussi enseigner ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences concrètes ? Parce que ça, on sait pas. Et du coup, je me dis, bah, ce serait bien de savoir ce que je sais faire et peut-être que d'en apprendre davantage sur moi. Et puis après, je me dis, ouais, non. Finalement, j'ai la flemme. J'aime bien, finalement, faire ce que je fais. Alors, je sais pas si je suis très compétente ou si j'ai des compétences, mais ça a l'air de bien se passer. Donc, on continue.
Ouais, t'as l'air d'aimer ton boulot, en tout cas. Pas ton métier de prof. Est-ce que tu as un message pour la fin de cet épisode aux mères qui vont reprendre ? Ils sont peut-être profs ou pas, ou qui l'envisagent ?
C'est quand même compatible. On peut faire les deux. Si, on peut le faire. Mais par contre, ça, ouais, il faut être rigoureux et il faut arriver aussi à se détacher du fait de tout faire à 100% tout le temps parce que c'est inhumain, en fait. Par exemple, je sais que moi, je ne veux pas travailler le soir quand je rentre chez moi. Donc, des fois, je culpabilise parce que je me dis « Ouais, mais c'est horrible, ils m'ont rendu un devoir. » Et bien, ça fait déjà une semaine que je ne l'ai pas corrigé. Ben ouais. Mais en fait... Il faut savoir décrocher, il faut avoir la rigueur de se faire passer avant parce que ce soit nos enfants ou notre métier, ils ont besoin qu'on soit bien et du coup, il faut vraiment garder ça en tête.
C'est un peu la réflexion que tu avais eue pour décider ton congé parental finalement.
Ouais, bah, je devrais relire plus souvent ce poste.
Donc voilà, on restera là-dessus, il faut s'imposer des pauses.
Alors la rigueur de se faire passer avant, je retiens la formule. Merci Elia.
Merci beaucoup Elia.
Au revoir.
Le témoignage d'Elia offre une réflexion profonde sur la place et le rôle du travail dans la vie des mères. Le travail peut être un vrai pilier de stabilité et de normalité quand l'équilibre familial vacille. Ou au contraire, lorsque les contraintes horaires sont trop fortes, ce peut être un facteur de déséquilibre tel que son sens peut être remis en cause.
On sent bien tout l'amour d'Elia pour son métier et pour ses élèves, en même temps qu'on sent sa lassitude face à la dérive d'un système qui ne valorise pas les enseignants. D'ailleurs, c'est peut-être cette frustration, alliée à son amour des livres et de l'écriture, qui la pousse à se lancer dans tant de side projects.
Ses poèmes, son compte Instagram, le Mother Book Club, sont des projets créatifs où elle peut se laisser guider par ses envies, et non plus devoir composer avec les contraintes et les responsabilités qu'on lui impose. Une manière d'être soi, en quelque sorte. Et surtout du temps où elle se fait passer avant, comme elle aime à le prôner.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.